Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
Bonjour à tous. 2 mois de sursis pour l'Hermione encore. Le tribunal judiciaire de La Rochelle a examiné le sort de l'association Hermione Lafayette hier après-midi. Elle reste donc encore en redressement judiciaire jusqu'à la prochaine audience qui a été fixée au 25 mars. Pas de liquidation prononcée, mais une situation encore très fragile pour les finances de l'association. La réplique de la frégate de Lafayette reconstruite à Rochefort est toujours en attente de reprise des travaux de réparation à Anglette. Plus que jamais, la directrice Émilie Beau et le président Marc de Briançon en appellent aux dons et aux mécènes.
Voilà, nous poursuivons notre action. Je crois que le tribunal a entendu aussi toute la mobilisation qui monte autour de nous. Donc on va avoir besoin de tout le monde dans les prochaines semaines. Et pour l'instant, une audience est renvoyée au 25 mars prochain. Et la décision sera prise le 25 mars. Mais d'ici là, il faut nous aider, il faut que toute l'association soit soutenue. Donc on relance évidemment l'appel aux dons et on en appelle aux mécènes et on va essayer de transformer l'essai.
Et nous restons optimistes pour affiner, pour encore aller plus loin. Et on compte effectivement, comme elle a dit, sur la mobilisation de tous pour aller plus loin et faire naviguer ce magnifique bateau, ce magnifique symbole que nous espérons tous voir naviguer.
Les frères Jaouen, Tugdual et Kenan ont déposé une offre de reprise le 5 janvier dernier. Il manque encore des documents à vérifier. Objectif, faire naviguer l'Hermione à l'année. 2 mois pour peaufiner le projet, créer une association et mobiliser des millions de Français. Kenan Jaouen.
Donc nous, ça nous laisse du temps pour améliorer l'offre de reprise. Donc le tribunal n'a pas l'air d'être fermé sur cette offre. Et puis ça nous permet aussi de lancer la mobilisation dont on a besoin. Ce qu'on cherche, c'est au moins 3 millions de Français et n'importe qui dans le monde qui donne 2 euros. On ne demande pas 10 euros, pas 35, pas 50, on demande 2 euros. Au lieu de prendre un café ou au lieu de prendre 2 baguettes, vous payez 2 euros. Ça vous permet de visiter l'Hermione partout où elle sera. Une fois qu'elle naviguera, vous pourrez peut-être la voir auprès de chez vous. Tous ceux qui ont visité le bateau lors des escales précédentes pourront revenir à bord. Et s'ils ont payé leurs 2 euros, ils pourront venir gratuitement visiter le bateau lors d'une escale dans leur port. Le projet, c'est très mobilisateur, c'est beaucoup de monde, mais c'est une chose qui a déjà été faite. L'USS Constitution, qui est une frégate de 24, donc une frégate beaucoup plus grosse que l'Hermione, aux États-Unis, elle a été sauvée en 1920 grâce à ça. Ils ont demandé à tous les élèves des écoles de donner un penny. Et les élèves ont été suivis par les parents qui ont donné 1 dollar et ainsi de suite. Et ça fait que le bateau navigue encore à Boston tous les ans. Donc c'est quelque chose de possible.
Également présent au tribunal, Grégoire Le Callot qui comptait présenter un projet de reprise. Il se range finalement derrière les frères Jaouen. 2 mois, c'est court, mais il continue de croire en l'Hermione.
2 mois, je ne sais pas si c'est le temps de l'optimisme. C'est surtout le temps de se mettre vraiment au boulot et de convaincre. Et aussi de rétablir certaines vérités sur l'Hermione, parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui ont été proférés, de rumeurs qu'on a laissé circuler, qui sont fausses. L'Hermione est un bateau qui est réparable aujourd'hui. C'est pas un bateau qui a eu des malfaçons dans sa construction, c'est un bateau qui est viable et qui peut encore naviguer longtemps. Et donc une partie du travail, ce sera aussi de convaincre qu'on se bat, pas pour une coque pourrie, mais pour une véritable frégate qui peut encore donner énormément à tout le pays.
Prochaine audience pour l'Hermione donc le 25 mars, avec soit la liquidation, la poursuite du redressement ou le début d'une nouvelle aventure avec les frères Jaouen. Dans un communiqué, le groupe écologiste au conseil régional condamne les actes de violence survenus mardi soir lors d'une réunion d'information sur le thème de l'eau à Saint-Jean-d'Angély. Elle était organisée par l'association SOS Rivières et Environnement. Stéphane Trifiletti, conseiller régional écologiste de Charente-Maritime, était dans la salle. Les jets d'eau, les invectives et les atteintes à des biens privés sont inacceptables, alors que le débat était ouvert à tous, déplore-t-il. Le sénateur socialiste de Marraine, Michael Vallée, favorable à l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. La proposition de loi a été votée mardi à l'Assemblée nationale. Elle doit passer au Sénat le mois prochain. Le sénateur socialiste et le président de la commission d'enquête parlementaire sur l'utilisation du réseau social TikTok, son exploitation des données, sa stratégie d'influence. Pour le sénateur, face à des plateformes qui ne jouent pas le jeu, il est normal de les contraindre.
Les plateformes n'ont pas joué le jeu qui leur était demandé depuis des années, à savoir celui de la régulation et celui de la modération. Il y a des règles qui existent. On reproche souvent à l'Union européenne de se contenter de faire des normes. Je suis le premier à être très eurocritique. Mais sur la question du numérique, nous avons en Europe un coup d'avance. Seulement, ensuite, encore faut-il que les lois et les règles soient appliquées. Et encore faut-il que ceux qui sont chargés de les appliquer le fassent de bonne grâce. Parce qu'en fait, on passe notre temps à courir après les GAFAM et après les plateformes pour leur demander de bien vouloir appliquer des règles qu'ils connaissent parfaitement et ils ne le font pas. Donc au bout d'un moment, quand vous avez affaire à des gens intellectuellement malhonnêtes, TikTok, X, Facebook, tout ce que vous voulez, et qui ne veulent pas jouer le jeu parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du vu, générer du flux pour gagner de l'argent, et prendre en otage le cerveau en construction, parce que c'est ça qui est un élément très important, des plus jeunes.
J'allais de le rappeler quand même, les réseaux sociaux sont aussi un espace d'échange entre jeunes.
Il faut garder à l'esprit qu'on doit être éclairé par la science. C'est extrêmement important. Il y a une science de la pédagogie, il y a une science de la question des neurones et du cerveau et du développement des adolescents. Et ce que nous disent un certain nombre, un grand nombre de spécialistes, c'est qu'au moment de l'adolescence, il y a des besoins de forums et d'endroits où les plus jeunes ont besoin d'échanger et de faire communauté. Donc on ne fait pas communauté en recevant de manière passive des messages idiots, mais en revanche, la question des messageries, la question des boucles, c'est un sujet. On supporte à tort de moins en moins les jeunes dans l'espace public. Hein. Avant, les jeunes se retrouvaient dans la rue, tapaient dans le ballon, se retrouvaient au foyer rural. C'est moins le cas aujourd'hui, malheureusement, parce que les adultes ne font pas ce qu'il faut non plus pour ça. Et donc, c'est important que les jeunes ne soient pas privés totalement de l'outil numérique, ou alors c'est une autre société dans laquelle il faudrait aussi que les adultes, les plus âgés, se posent la question du temps qu'ils passent de manière inutile sur toutes ces plateformes.
La Commission européenne a validé mardi une interdiction en fonction de l'âge. Si la proposition de loi est adoptée, la France serait le deuxième pays à interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Après l'Australie, il est 12h13 sur Demoiselle, on se retrouve dans un instant.
Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
On poursuit ce journal avec l'agenda. La GPIO tient son assemblée générale ce soir à 20h30 à la salle du sémaphore à Boursefranc. Une assemblée générale ouverte à tous. La GPIO, c'est l'assemblée générale, l'association pour la gratuité du pont de l'île d'Oléron. Je vais y arriver. Municipal 2026 à Tonnet-Charente. L'opposition au conseil municipal en ordre de marche pour les prochaines échéances électorales. Fernand Troy, les têtes de la liste intitulée Projet Tonnacois au pluriel. Il est actuellement conseiller municipal d'opposition et on peut dire qu'il a déjà une solide expérience puisqu'il a déjà siégé dans les rangs de l'opposition de 1995 à 2008, puis de 2020 à 2026. Une liste sans étiquette, explique-t-il, avec des priorités, reconstruire, construire, réhabiliter, rénover. Il déplore notamment l'état de la voirie et le manque de lieux de vie dans la commune.
Il n'y a pas suffisamment d'endroits où les gens peuvent se réunir pour travailler. Certes, il y a la salle des fêtes, mais bon, il y a l'auditorium, bien sûr. Mais sinon, si on regarde bien, on a environ une salle de réunion, et pas plus, sur la commune, pour pouvoir se réunir et travailler sur un projet. Je pense qu'il y a des bâtiments qui, justement, ont été laissés à l'abandon. Ça parlera à tout le monde. La salle Jean Moulin, qui, depuis une quinzaine d'années, est à l'abandon. On ne peut plus s'y réunir, alors que cette salle était vraiment confortable pour pouvoir travailler 20, 30 personnes sans aucun problème. La voirie, ça me chiffonne. Beaucoup de chutes. Beaucoup de nids de poules, vraiment un entretien de la voirie qui a été délaissé. Alors il y a sûrement des raisons pour que cet entretien soit délaissé. Mais voilà, on a peut-être cherché à prioriser un projet et en délaissant peut-être l'entretien normal de la commune.
Fernand Troal, qui est sceptique également en ce qui concerne les travaux de restauration du pont suspendu de Tonnet-Charente, il craint de lourdes conséquences sur les finances de la commune pour de nombreuses années.
C'est un projet pour lequel je suis d'accord, il faut qu'on s'en occupe. Mais très honnêtement, on a beaucoup de doutes. En tant que citoyen, on ne voit pas l'horizon. On ne voit pas l'horizon et on est parti pour de nombreuses années d'investissement. Et je pense qu'il y a un doute quand même sérieux. Alors on est parti sur une rénovation partielle, c'est très bien. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Mais on voit mal l'avenir de ce pont. On le voit mal. à 20 ans, 25 ans, parce que bon, c'est pas un petit ouvrage. Ça peut devenir un boulet parce qu'une fois lancé dedans, il va falloir aller au bout. Il va falloir avoir la volonté d'aller au bout. Et donc, on va passer des années et des années en recherche de financement. Et je crois que la difficulté fera qu'on sera toujours, pendant au moins 2 décennies, à se tordre la tête pour trouver les financements adéquats et donc de bons montages financiers.
Fernand Troel et ses colistiers animeront une réunion publique lundi prochain à 19h à l'auditorium du Centre Richard Hattonnet-Charente, une liste qui fait face à celle de l'équipe sortante menée par l'adjoint au maire Rémi Justinien.
Demoiselle, interview.
Avec nous dans ce studio, Marie-Pierre Labrogère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'ARCEF et Sylvie Porcher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente également de l'ARCEF à Rochefort. Hein. On fait le point ensemble sur l'association de sauvegarde et de promotion du patrimoine en Pays Rochefortais. Vous fêtez vos 50 ans, vous avez tenu récemment votre assemblée générale. Quel bilan vous dressez après ce demi-siècle ?
Alors, nous sommes très heureux de pouvoir parler d'une association qui existe toujours avec des projets. Et à l'occasion de notre Assemblée Générale, nous avons mis un point d'orgue aux manifestations pour les 50 ans que nous avions largement fêté au mois de septembre au moment des Journées européennes du patrimoine. Et donc, lors de notre Assemblée Générale, nous avons pu faire le bilan de cette année riche en émotions pour nous. Et donc, lors de l'Assemblée Générale, on a pu constater que certains de nos projets avaient avancé et on en a fait le bilan. C'est tout ce que l'ARCEF, depuis des années, a fait pour réhabiliter les bâtiments liés à l'eau à Rochefort. Nous avons également pu traiter de sujets comme les gares, les transports collectifs. Nous avons également parlé du petit patrimoine qui est important dans la ville de Rochefort. Et nous avons également voir que nos travaux, notre communication avec des sujets que nous portons depuis des années, eh bien, finit par aboutir puisqu'on a eu la joie de voir que la fontaine Saint-Charles a été restaurée grâce au financement de la ville de Rochefort et de la Caro. Et désormais, elle est belle et on peut la voir au fond de la rue Audry de Puyraveau.
Ça, on va y revenir. Concernant ces 50 ans, est-ce qu'on peut dire que l'ARCEF a vraiment permis une prise de conscience de l'intérêt de préserver le petit patrimoine à Rochefort ?
Alors, je pense que oui, surtout que au démarrage, cette association était faite pour distribuer des subventions dans le cadre du contrat Ville Nouvelle. Ça me permet de parler de la décision qui a été prise par le conseil municipal hier soir pour donner le nom de Jean Morin au parvis sud de l'ex-hôpital Saint-Charles. Ça faisait des années que l'ARCEF souhaiter qu'on puisse attribuer une rue, le nom de Jean Morin à une rue ou une place importante, compte tenu de son rôle essentiel pour le renouveau de Rochefort dans le cadre du contrat Ville Moyenne.
Pour les plus jeunes, qui était Jean Morin ?
Alors Jean Morin a été maire de Rochefort et c'est Jean-Louis Fraud qui lui a succédé, mais c'est lui qui a conçu cette avec des financements qui étaient venus des contrats Ville Moyenne, mais il a pris le parti d'utiliser le patrimoine pour le réutiliser, lui donner un sens. Et donc, c'est une idée, un concept que l'ARCEF défend, c'est le concept du patrimoine durable.
Est-ce qu'on peut dire qu'il a réveillé la belle endormie, un peu comme Bordeaux
Certes, après, il était au démarrage. Ensuite, il y a eu des événements qu'on connaît avec le film Les Demoiselles de Rochefort, etc. Mais c'est vrai qu'il est au démarrage de ce programme de renouveau.
Alors, vous parliez aussi de la fontaine Saint-Charles.
Oui.
Ça y est, on peut enfin l'admirer. Donc, c'est quelque chose d'important pour vous.
Ah oui, oui, oui. Là, on est très, très heureux puisque ça faisait plusieurs années. Un des anciens présidents de l'ARCEF, Alain Durand, avait défendu ce projet dans les années 2000 et il n'avait pas réussi à l'époque à convaincre la ville et la CARO parce que pour nous, nous n'avons comme arme, je dirais, que notre force de persuasion. On a pu prendre conscience de l'intérêt de ce monument par les publications que nous avons faites, mais aussi par une maquette qu'un des membres de l'ARCEF, Alain Wagner, a réalisée à partir des plans. Et cette maquette a, je crois, convaincu les autorités, les services locaux de l'intérêt de la sauvegarde de la fontaine.
Et vous organisez une grande fête.
Alors, on va à la fin du mois de juin, à la fin du premier semestre, le 25 juin, nous ferons une rencontre, comme l'ARCEF en fait régulièrement, une rencontre pour fêter la fontaine Saint-Charles en rappelant toute la démarche qui a été celle de l'ARCEF et pour, avec le début de l'été, faire une fête au pied de la fontaine.
On est ensemble aussi pour parler d'une conférence assez incroyable. Hein. On va parler de Buffalo Bill, mais qu'a fait Buffalo Bill à Rochefort ? Racontez-nous.
Alors, Buffalo Bill à Rochefort, effectivement, c'est étonnant. Ce sont deux chercheurs, donc Élodie Darmon et Kevin Porcher, qui sont enseignants à Guadeloupe, qui ont trouvé, en faisant des recherches sur le début du 19e siècle, ils ont trouvé un petit article de journal qui relatait la venue de Buffalo Bill et son spectacle Wild West Show à Rochefort, donc le 4 septembre 1905.
Donc c'est incroyable.
C'était vraiment curieux. Donc ils ont mené une recherche approfondie et ils ont trouvé effectivement que Rochefort était une étape parmi les 140 étapes en France à ce moment-là. Et Buffalo Bill donc faisait de ville en ville, amené avec trois trains de 18 wagons, 16 wagons et 15 wagons. Donc il a mené son matériel pour, à 5 heures du matin, tout le monde débarquait pour installer les galeries, les tribunes, le village, les tentes, pour la journée.
Rien que la logistique déjà, c'était un spectacle.
C'est époustouflant, oui, tout ouais. À fait. Oui, c'est, effectivement, c'est un spectacle, car 16 wagons étaient destinés pour dédiés aux chevaux. Et quand les chevaux descendent, ils sont aussitôt scellés et un Indien, un cow-boy, un gaucho montent dessus et le spectacle commence à ce moment-là. C'est le défilé vers le champ de manœuvre, donc qui est maintenant occupé par le lycée Merleau-Ponty.
Et c'était donc ambiance Far West ?
Alors, c'est ambiance Far West, complètement. Donc, c'est une revue théâtralisée, en fait, de la vie au Far West. Ce n'est pas la réalité. C'est pas le souhait de Buffalo Bill, c'est un divertissement, mais basé sur des faits réels. Il y a des reconstitutions, il y a ce que l'on attend de voir au Far West.
Et vous organisez cette conférence l'après-midi, c'est pas par hasard.
Alors, tout à fait, c'est même une visioconférence, puisque les deux conférenciers sont en Guadeloupe et ne peuvent pas se déplacer pour l'instant. Donc avec le décalage horaire, la conférence aura lieu à 15h.
Et ça peut intéresser les plus jeunes.
Ah, tout à fait.
C'est ce qu'on disait aussi, des lycéens pourraient venir.
Tout à fait.
Voilà, je pense que c'est très documenté avec des films et des photos. Et donc, je pense que les jeunes peuvent être très intéressés par cette conférence.
Avis aux jeunes, donc, c'est jeudi 12 février au Palais des Congrès de Rochefort à partir de 15h, hein, le Wild West Show Buffalo Bill à Rochefort. Merci beaucoup à vous deux. On passe aux nouvelles du ciel.
Le temps qu'il fera aujourd'hui avec Météo de la Charente-Maritime. Pour des prévisions locales fiables sur notre département, rendez-vous sur la page Facebook Météo de la Charente-Maritime.
Et ça continue, Pierre.
Et oui, ça continue. La pluie qui est de retour pour cet après-midi également. Ça sera d'ailleurs plus intense en fin d'après-midi et en début de soirée. Donc on est vigilant après la journée de boulot. Avec toujours ce vent de sud-ouest pouvant aller jusqu'à 40 km/h. Au niveau des températures, eh bien on aura pour les maxi 8 à Méché, 10 à Sainte, 11 à Jonzac, jusqu'à 12 degrés attendu du côté de La Tremblade et de Foura. Et pour la fin de semaine, eh bien ça s'annonce encore bien pluvieux.
Tu as vu, chérie ? C'est les...
Du calme, chérie. C'est les quoi ?
C'est les soldes !
Bah oui, c'est les soldes. Et alors ?
Eh ben, c'est les soldes chez Jotul.
Attends, des soldes chez Jotul ? Tu veux dire les poils norvégiens en fond de Jotul ?
Oui !
Bah alors, qu'est-ce qu'on attend ? C'est le moment de se lâcher.
Chaud devant !
Allons vite chez Jotul !
Cheminée Charrier, 105 avenue du 11 novembre à Rochefort. 05 46 880 770 ou sur cheminée-charrier.fr.
Voir conditions en magasin.